Micro Méga, Patrick Chompré.
Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie de Micro-Méga, l'actualité scientifique de la semaine. Et dernière partie avec vous, Jean-Yves Casga, bonjour.
Bonjour Patrick.
Une interview multifacette, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à montrer les autres facettes d'une personnalité scientifique connue.
Micro-Méga.
Et cette personnalité, Jean-Yves, aujourd'hui?
Eh bien, je suis très très embêté pour la présenter parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'interprète inoubliable de Knock, c'est pas tous les jours qu'on a Molière, c'est pas tous les jours qu'on a un vrai médecin. Jean-Paul Escande, bonjour.
Bonjour. C'est pas bien de se moquer de moi pour commencer.
Non, mais parce que c'est vrai qu'on vous attend pas, on vous connaît comme l'homme de grands coups de gueule sur lesquels on aura l'occasion de revenir. On vous connaît aussi comme un grand dermatologue, vous avez souvent été à la une de l'actualité, et puis ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que vous faites des one-man shows, et puis que vous allez sur scène, et puis pas n'importe où, hein, c'est aux Deux Ânes, la Gaîté Montparnasse aussi, je crois.
La Gaîté Montparnasse, ouais. Et le Théâtre Mouffetard.
Aussi, voilà. Mmh. Et là, carrément, vous écrivez et interprétez vos propres textes.
Oui, j'écris le plan et j'improvise chaque soir.
Ah, vous improvisez?
Ah oui,
d'accord.
Oui, je vais vous dire, pour une raison très simple, c'est que pour dire un texte, il faut être comédien. Et c'est un métier pour lequel j'ai énormément de respect, mais que je ne sais pas faire. En revanche, ce que je sais faire, c'est parler, et comme ça vient. Alors, j'ai un plan très strict, mais que je parle de la médecine selon Guitry, de la médecine selon Knock, ou que je parle de la peau, que je fasse un one-man peau, comme m'avait dit un de mes copains, j'improvise tous les soirs. Et ça n'a jamais la même durée, mais c'est quand même un plan très strict. Et
est-ce que c'est parce que il y a des choses que vous pouvez pas dire en étant un grand prof de médecine estampillé, et donc ça vous permet d'aller plus loin?
C'est pas exactement ça. C'est que je pense, j'ai toujours pensé, que dans mes obligations universitaires, il y avait d'enseigner le public. Alors, je crois que là, vous voyez, j'ai eu quelques problèmes avec la hiérarchie médicale, avec mes très chers collègues, avec une partie du moins, la plus réactionnaire, très bien, il faut qu'elle existe, mais moi, je pense qu'il faut éduquer le public. Je pense que le public doit savoir quels sont les dessous de la médecine. Et je dis souvent, quand on va voir un match de football ou de rugby, c'est bien de connaître les règles. Quand on va voir un médecin, c'est bien de connaître les règles de la médecine. Or, je ne vois pas pourquoi on ne le révélerait pas. Et donc, en faisant réfléchir sur des situations médicales très caractérisées, on peut aider le public à s'y retrouver.
Alors, pour compléter le portrait de Jean-Yves, vous l'avez dit, universitaire, médecin, ancien président de la Commission nationale de lutte contre le dopage, et puis donc l'auteur de livres qui ne mâchent pas leurs mots, on va peut-être en reparler aussi, hein, Mirage de la médecine, Lettre ouverte aux technocrates qui prennent l'hôpital pour une usine, J'accuse le marchand de peur, etc. Donc là, vous avez, c'est finalement une fenêtre de liberté supplémentaire que vous vous octroyez?
Oui, alors, il y a la liberté, mais vous savez, je n'ai jamais dit des choses très lourdes. J'ai simplement dit ce que tout le monde voit. Et alors, ça me paraît être quelque chose d'abominable. Mais par exemple, le dernier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Anti-Manuel de médecine...
dans la série Anti-Manuel.
Voilà, tout le monde a dit, ah, mais c'est un manuel d'anti-médecine. Pas du tout. C'est une affaire où j'ai imaginé des financiers qui veulent investir dans la médecine et qui visitent donc tous les endroits importants pour comprendre comment la médecine fonctionne. Vous voyez, c'est ça mon souhait perpétuel et mon souci perpétuel. Et quand je suis en face ou d'un bien portant ou d'un malade, c'est de lui expliquer un peu ce que je fais, ce que je pense, pour qu'il ne se sente pas devant une autorité supérieure inaccessible.
Mais Jean-Paul Escande, en fait, c'est votre ligne directrice sur toute votre vie, ce sont les rapports malade, médecin et industrie. Vous avez toujours traversé ça, en fait.
Exactement. Je pense que je suis fils de commerçant et père de commerçant, avec des gros trucs. Bon, j'ai toujours pensé que on ne pouvait pas faire sa médecine sans être lié avec les forces industrielles, mais je pense que la médecine n'est pas un commerce. Ça, vraiment. Pendant 50 années de ma vie hospitalière, j'ai pas pris un centime à un malade. J'étais fonctionnaire payé par l'État, c'était très bien. Mais je n'ai absolument aucun mépris pour l'industrie et pour le commerce et pour l'administration qui est chargée de faire tout ça. Simplement, moi, je veux que les règles du jeu soient mises sur la place publique.
Alors, si on parcourt un petit peu votre vie, il y a d'abord, et c'est vrai que moi, ça me touche particulièrement, puisque je suis très, très intéressé par l'environnement, le développement durable, je me préoccupe de notre planète. Et en fait, vous, carrément, en 72, vous étiez déjà ami avec le professeur Dubos, qui avait sorti, dès l'époque, en 72, c'était à Stockholm, « Nous n'avons qu'une planète ».
Oui, j'ai eu cette chance inouïe dans ma vie, de pouvoir travailler, et vraiment en profondeur, pendant des centaines d'heures, avec des gens formidables. Alors, en médecine, je vais sortir trois noms. Un connu de personne, le professeur Marsh, qui a été pour moi un type extraordinaire. Bon. Et puis, le professeur Jean Bernard, dont j'ai été directement l'élève, et puis Marc Gentilini, qui est un type absolument formidable. Marc Gentilini, quand on était jeunes, nous a tous sensibilisés à ce qu'était l'Afrique. Parce qu'il s'occupait de la pathologie tropicale, il avait monté à l'hôpital Antoine Chantin, qui a disparu maintenant, tout un étage où on soignait les Africains migrants, et je peux vous dire que je lui serai éternellement reconnaissant de ce qu'il a fait, parce que c'était formidable ce qu'il faisait. Et puis alors après, alors j'ai eu trois grands noms avec lesquels j'ai travaillé, René Dubos à New York, qui était un franco-américain, qui était un personnage étonnant, qui a fait le XXe siècle, Pierre Auger, qui en France a fondé le commissariat à énergie atomique, et le Centre National d'Études Spatiales, et en partie le CERN, et puis j'ai connu aussi, moins bien, mais j'ai depuis tellement travaillé son œuvre, celle du mathématicien René Thom, et je pense qu'il y a beaucoup de grands esprits dans le monde, mais je pense que ces trois-là, c'était le top du top du top, ils faisaient partie de la crème, et quelqu'un comme René Thom, quelqu'un comme Pierre Auger et quelqu'un comme René Dubos, il faut l'écouter, si vous voulez. Et après, mon travail, qui m'a pris 25 ans, mais je crois que j'y suis arrivé, c'est de faire une espèce de synthèse entre les trois, et je dois dire qu'à l'heure actuelle, sans avoir les chevilles qui gonflent, ce que je pense de la biologie en général, ça devrait intéresser quelques personnes.
Et un petit scoop, c'est que vous allez terminer, là, un livre sur ces 25 ans d'histoire.
Quand on connaît, quand on a fait la recherche historique, la vraie recherche historique, parce que j'ai fait un vrai boulot, là, sur l'origine des antibiotiques, au nom de Fleming, on rigole, et devant le nom de Dubos, on s'incline. Et puis il y a d'autres personnages, il y a Waxman, il y a Florey, Chain, Hitley, qui ont été des gens très étonnants, mais bon. Et quand j'ai reconstitué l'histoire de la découverte des antibiotiques, Dubos m'a dit, et vous croyez que ça intéressera quelqu'un, toutes ces vieilles histoires? Et il avait raison, les vieilles histoires, ça n'intéresse pas, sauf si on en fait quelque chose. Ça m'a pris 25 ans.
Paul Escandet, l'invité multifacette de Microméga aujourd'hui. Parmi les mauvaises nouvelles de la semaine, Jean-Paul Escandet, l'Institut National du Cancer qui a publié un état des connaissances sur l'impact de la nutrition sur les cancers et qui nous dit, bien voilà, le petit verre de vin quotidien, c'est cancérigène. Là-dessus, d'autres communiqués qui arrivent, mais non, un ballon de vin au milieu de chaque repas protège du cancer et des maladies cardiovasculaires. Donc voilà, ça y est, la bataille est ouverte. Vous voyez ça comment, vous, cette...
Vous parliez de Darwin tout à l'heure.
Oui.
Vous savez, l'histoire classique qu'on raconte où un jour Darwin était dans une réunion très snob et il y a une vieille dame qui était la duchesse de je ne sais plus quoi, d'York, je crois, qui lui tape avec sa canne sur les mollets et qui lui dit « Vous êtes monsieur Darwin ?»« Madame, c'est vous qui dites que l'homme descend du singe ?»« Oui, enfin, si on peut dire, eh bien, taisez-vous, parce que de deux choses l'une, ou bien c'est faux, il ne faut pas le dire, ou bien c'est vrai, et il ne faudrait pas que ça s'ébruite. » Eh bien, je vais vous dire, je reprendrai volontiers ça. Franchement, je crois que on vit dans une situation qui est difficile pour tout le monde à l'heure actuelle. Et comme ça, balancé partout, qu'un verre de vin, c'est une catastrophe. Dans ma Corrèze natale, on disait, après la soupe, un verre de vin tire un billet de 100 sous de la poche du médecin. Je vais vous dire, je mets au défi qui que ce soit de prouver que c'est vrai.
Ouais.
Parce que c'est pas possible, vous comprenez? C'est pas possible. Sinon, tout est dangereux. Je trouve que ça, ça fait partie des choses qui feront rire de nous d'ici quelque temps. Parce que c'est de la mauvaise épidémiologie et c'est de la mauvaise propagande pour la médecine préventive. Il faut pas faire des choses comme ça. L'autre jour, au marché aux puces, j'ai acheté deux vieux livres sur la syphilis. Il faut voir ce qu'on racontait, que 90% des appendicites étaient d'origine syphilitique, que toutes les familles se transmettaient la syphilis de génération en génération. Tout ça était faux, et c'était des grands noms. Je vais vous dire, si des épidémiologistes sont arrivés à cette conclusion, eh bien, il faut d'abord qu'ils se donnent le temps de vérifier.
Oui.
Mais je n'y crois pas un seul instant. Je serai mort avant qu'on ait fait la preuve du contraire. Mais de là-haut, je regarderai et je rirai.
Alors Jean-Paul Escandela, vous faites allusion à la syphilis. Précisément, en tant que dermatologue, vous êtes spécialiste aussi des MST, les maladies sexuellement transmissibles.
Oui, on a les deux casquettes, voilà. Dermatologie et maladies sexuellement transmissibles.
Et vous avez eu l'occasion de parler beaucoup de sida il y a quelques années et même d'anticiper des choses.
Oui, j'ai peut-être un peu trop anticipé. Alors ça m'a valu pendant 15 jours d'être frappé d'indignité nationale. Et alors, je dois dire que je l'ai assez bien supporté parce que mes malades savaient très bien que je disais la vérité. J'avais dit que l'épidémie ne serait pas ce qu'on pouvait craindre. Moi, je vivais au milieu des malades. Hein. J'avais pas lu dans un journal ce qui se passait. Bon. Et alors, à ce moment-là, Roger Stéphane, qui était un de mes amis, je dis tout de suite qu'il n'avait pas le sida, et est arrivé et m'a dit, mon cher, on a essayé de monter contre vous une petite mayonnaise, elle n'a pas tenu 8 jours. Bon, mais alors...
Si mais en fait, voulez, c'est ce qui s'est passé.
On
c'est
me ressort encore ça de temps en temps, comme si j'avais commis un crime. Alors, le crime que j'avais peut-être commis, c'était de démobiliser et de dire que finalement le danger n'était pas aussi grand. Mais moi, j'ai la conviction absolue, et je n'en demanderai jamais, que la peur du gendarme n'est le commencement de la sagesse que si le gendarme est intelligent. Or, avec tout le respect que je dois à la gendarmerie, ce n'est pas un pléonasme, voyez. Donc, quand la famille d'un malade me dit « faites-lui peur », parce que jamais.
Vous luttez beaucoup contre la peur, hein. C'est quelque chose qui revient dans votre carrière sous différentes
affreux,
formes.
Hein. Si vous voulez, de faire peur aux gens, faites-lui peur. Ah, la peur est une émotion sidérante négative. Alors, que après la peur, ça fasse quelquefois réfléchir un peu, d'accord. Mais j'ai jamais vu quelqu'un pétri de trouille et qui dit « Ah ben ça me donne des idées formidables ». Je ne crois pas. Je pense que la pédagogie, c'est le contraire de la peur. Moi, j'aime pas faire peur, et je dois dire que ce coup du verre de vin, ah ça, ça m'a... Mais ça m'a fait rire, si vous voulez, tellement c'est bête.
Ben voilà, c'est classé, hein,
oui, classé, oui, le vin, on va le ranger. Ben, on va peut-être boire un coup, d'ailleurs, hein, avec vous. Jean-Paul Escandes, alors là, on parlait du SIDAL. Vous avez eu aussi une partie de votre carrière, vous avez dirigé pendant 8 ans la lutte antidopage, et notamment au moment où c'était chaud, chaud, chaud pour le Tour de France. Et le Tour de France, c'est dans 3-4 mois.
Alors, c'est pas refroidi, hein.
Et oui, alors qu'est-ce qui s'est... Pour vous, comment vous analysez la situation aujourd'hui?
Je dis souvent que Roger Bambuc, qui m'avait confié la lutte antidopage, a eu bien raison. Parce que plus je m'en suis occupé, plus le dopage a augmenté. Donc, si vous voulez, c'est une efficacité remarquable. Bon. Bon.
Ça ne s'est pas arrêté avec votre départ.
Je pense que dans le dopage, il y a deux aspects. Il y a d'un côté la tricherie sportive et d'autre part un problème véritable de santé publique. Parce que le dopage n'est pas limité aux champions de haut niveau. Mais les champions de haut niveau servent quand même de porte-drapeau.
Alors, de laboratoire.
Voilà, de laboratoire. Et je trouve qu'il y aurait beaucoup à faire. J'ai proposé ce que je crois devoir être la meilleure façon de s'y passer. Personne n'écoute. Ce qu'il faut faire, c'est surtout pas s'attaquer aux champions que les fédérations surveillent, d'accord. Mais les médecins, c'est pas de s'attaquer aux champions. C'est chez les champions qui ont raccroché de faire une étude épidémiologique pour voir ce qu'ils sont devenus.
Une grosse étude
sous,
comme ça,
sous le secret professionnel. Parce que moi qui adore le sport et les champions, j'ai aucune envie qu'ils se tuent pour me faire plaisir.
Et il n'y a pas d'étude comme ça en cours en ce moment?
Il n'y a aucune étude de grande valeur.
Ouais.
Non. On ne vit sur le dopage que sur les rumeurs, le buzz et les ragots. Et On ne veut pas en sortir. Alors, la Commission nationale de lutte contre le dopage et présidée avait fait un bon boulot. On avait bien posé le problème. Depuis, les autres commissions n'ont pas réussi à imposer quelque chose qui fasse vraiment reculer le dopage. La seule qui a eu une véritable action positive, c'est Marie-Georges Buffet, lorsqu'elle a décidé qu'on prendrait les dealers. Mmh. Alors, on en a pris des dealers. Alors, oui. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on prend des dealers, mais ça paraît être la seule industrie, le dopage, pour lequel il n'y a pas de consommateurs. Parce qu'on prend des camionnettes entières de produits, et il n'y a jamais personne qui attendait. Ouais. On se manque un peu du monde là-dessus. Mais je comprends. S'il y a tellement d'intérêts, d'argent, de drapeaux, tellement d'affection pour les champions, que c'est pas facile à résoudre.
Jean-Paul Escande, pour finir avec un grand espoir, c'est que vous avez testé un truc qui est votre rêve, ce que vous avez envie de réaliser maintenant, c'est une école populaire de médecine, et c'est encore vous sur scène.
Ah oui, oui, j'ai monté ça il y a 2 ans, et ça marchait très bien, et je veux le reprendre maintenant, il faut que je le reprenne, parce que...
Concrètement, ça se passait comment?
Alors, vous étiez show, toujours? Jacques Maillot me prêtait le théâtre des Deux Ânes, le lundi soir, où il n'y avait pas de représentation. Je préparais un cours pour le grand public, et je faisais mon cours sur scène, alors j'essayais de faire rire les gens. Alors un jour je faisais le froid, un jour je faisais le chaud, un jour je faisais le vin, un jour je faisais le cholestérol. Vous voyez, j'avais toute une série de sujets comme ça.
Qui nous concerne tous.
Voilà. Uniquement des sujets grand public, mais quand même, j'expliquais comment fonctionnait un médecin, comment il réagissait, et puis ensuite, je descendais dans la salle et je discutais. Bon, je sais que ça fonctionne très très bien, et là, j'ai réussi à peu près mon passage entre l'hôpital où j'ai passé 50 ans et puis une installation en libéral, ce qui me change. Bon, et maintenant, je vais relancer cette école populaire de médecine parce que je crois que beaucoup de gens, professionnels ou pas professionnels dans le domaine de la santé, ont envie de comprendre. Alors, simplement, c'est pas un spectacle, c'est pas des conférences, c'est quelque chose d'un peu spécial, donc il faut que j'arrive à trouver des gens qui m'aident là-dessus. L'essentiel, c'est que je trouve une salle. Mm-hmm. Vous voyez ? Bon.
Et un concept. Enfin non, le concept, vous l'avez, c'est le nom. Ouais. C'est le nom.
Bon, oui.
On va
oui.
vous aider.
L'école populaire de médecine de Jean-Paul Escande.
L'Escanderie.
L'Escanderie, ah oui.
Et au théâtre, on vous revoit, enfin au théâtre. Dans
au théâtre,
on vous revoit bientôt.
La dernière chose que j'ai faite, c'est Guitry au lit. Et ce que je peux conseiller aux auditeurs qui veulent se former une idée sur ce que peut penser un malade du fond de son lit, c'est de lire les 2 textes de Sacha Guitry qui s'appellent 1. La maladie, oui. Il avait une pneumonie en 1913, il a écrit ce qu'il pensait des gens autour de lui, c'est extraordinaire, et ensuite il a écrit Mes médecins, et c'est un petit bijou, parce que ce qu'il balance comme vacherie, c'est pas possible. Juste, je vous en dis une, il dit, les médecins ont tendance à se spécialiser maintenant, Vaquez soigne le cœur, Henriquez soigne l'estomac, Robin aussi s'est spécialisé, il soigne les malades.
Excellent.
Merci Jean-Paul Escande. On était ravis de vous recevoir dans cette dernière partie de Micro-Méga. Je rappelle aussi l'anti-manuel de médecine qui était sorti aux éditions Bréal en 2006. Merci à vous. Merci à vous Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine.
Et oui Patrick, bien sûr, on va se retrouver la semaine prochaine.
Et puis on va faire un saut quantique jusqu'à la semaine prochaine. On va quand même rappeler que cette émission est réalisée par Cécile Bonessi, mixée par Cyril Etienne, et que vous pouvez bien sûr la réécouter sur le site de RFI, www.rfi.fr, où vous venez d'ailleurs nous visiter de plus en plus. Donc merci, vos messages également sont les bienvenus à micromega@rfi.fr. Dans quelques instants, la synthèse de l'actualité, restez sur RFI. We'll be right back.